Rarement dans l'histoire, un traitement efficace pour une maladie a été aussi attendu qu'avec la COVID-19, aussi bien par les médecins, les patients et les administrateurs. Plusieurs études ont été publiées dans les dernières semaines avec différentes approches thérapeutiques, parfois chez des patients avec maladies graves ou plus bénignes. Il est donc essentiel d'examiner ces données probantes de façon critique et d'évaluer leurs potentiels effets indésirables avant de faire des recommandations spécifiques. Je suis le Dr Luc Lantier, spécialiste en médecine interne générale au CIUS de l'Est-Richeus à Sherbrooke et professeur à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, et c'est moi qui animerai cette balado-diffusion du Journal de l'Association médicale canadienne. Et aujourd'hui, je vais m'entretenir avec le Dr François Lamontagne, qui est spécialiste en médecine interne générale et en soins intensifs au CIUS de l'Est-Richeus à Sherbrooke, professeur à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, mais aussi un expert reconnu mondialement en recherche clinique aux soins intensifs. Le Dr Lamontagne est aussi co-auteur d'un guide de pratique sur le traitement de la COVID-19 avec une équipe de collaborateurs de partout dans le monde, guide de pratique qui a été publié dans le Journal de l'Association médicale canadienne, et il se joint à moi aujourd'hui pour en discuter. Bonjour François.
Bonjour, merci de m'inviter.
Les guides de pratique clinique prennent généralement des mois, voire des années pour se réaliser. Pouvez-vous nous expliquer comment ce guide de pratique a pu être élaboré aussi rapidement?
Alors, les lignes directrices demandent qu'on fasse deux choses en temps normal, c'est-à-dire la synthèse des preuves scientifiques par le biais de revues systématiques et qu'on constitue un panel d'experts qui va, à la lumière de ces données scientifiques-là, faire les recommandations ou émettre les recommandations. Assez souvent, ces deux étapes-là, ben, on les fait en série. Dans le cas actuel, ben, on a procédé en parallèle pour économiser du temps. Par ailleurs, il y a rien qui fait que les revues systématiques doivent demander plusieurs mois. On peut procéder assez rapidement quand les projets sont priorisés. Puis, dans ce cas-ci, on a eu la chance de pouvoir compter sur un ensemble de collaborateurs qui ont effectivement mis ce projet-là sur le haut de la liste de leurs priorités pour la COVID-19.
Les recommandations des lignes directrices sont divisées en trois sections principales, les corticostéroïdes, le plasma de convalescent et les médicaments. Commençons par les corticostéroïdes. Les patients admis à l'hôpital avec la COVID-19 devraient-ils être traités avec des corticostéroïdes?
Bon, ben. La bonne nouvelle, c'est que le message va ressembler au message pour toutes les interventions auxquelles on s'est intéressé dans ce document-là. La mauvaise nouvelle, c'est que on a malheureusement assez peu de données scientifiques qui établissent que les corticostéroïdes, comme les autres traitements évalués, là, sont plutôt bénéfiques que délétères. Peut-être que l'exception, c'est les corticostéroïdes, parce que dans un cas précis, dans le cas de la minorité de patients qui vont développer une complication très sévère qu'on appelle syndrome de détresse respiratoire aiguë, puis qui est en fait une réaction inflammatoire assez grave pulmonaire, on pense, en raison de preuves scientifiques qu'on qualifie de preuve indirecte, on pense que dans le cas de ces patients-là, les corticostéroïdes pourraient être associés à une réduction de mortalité. Pour l'ensemble des autres patients qui souffrent d'une version ou qui sont moins sévèrement atteints que les patients en SDRA, notre recommandation était plutôt qu'il ne faut pas utiliser les corticostéroïdes à grande échelle chez l'ensemble des patients.
Dans votre revue systématique, vous avez examiné les données probantes directes et indirectes. Pouvez-vous nous expliquer ce que cela signifie?
Alors, quand on parle de preuves directes, on réfère aux preuves qui découlent d'études qui se sont intéressées de manière très spécifique à la population d'intérêt. Dans ce cas-ci, les patients atteints par la COVID-19. Évidemment, il y a plusieurs mois, là, c'est une maladie qui n'existait pas, donc c'est assez clair qu'il y a, à l'heure actuelle, peu de données directement reliées à cette maladie-là. Et donc, en absence de données, ben souvent, ce qu'on fait quand on a à émettre des lignes directrices, c'est qu'on s'appuie sur des données tirés d'études qui se sont intéressés à des populations semblables, mais pas tout à fait identiques. Donc, par exemple, pour le cas de ces lignes directrices-ci, pour certains traitements, on s'est intéressé à des études qui ont évalué les corticostéroïdes, par exemple, dans des populations de patients qui souffraient de syndrome de détresse respiratoire aiguë, mais pas causé par la COVID-19, ou d'études menées auprès de patients infectés par l'influenza. Alors, dans tous ces cas-là, les trouvailles de ces études-là pourraient s'appliquer peut-être aux patients atteints de la COVID-19, mais peut-être pas. Puis ça augmente l'incertitude en ce qui a trait aux effets de ces traitements-là pour les patients atteints de COVID-19.
Qu'en est-il du plasma de convalescent?
Donc, la thérapie de plasma de patients convalescents repose sur la théorie qui veut que quand on est infecté puis qu'on guérit d'une infection, on guérit parce que notre système immunitaire a réussi à se débarrasser de l'agent pathogène. Et donc, c'est une thérapie qui a été proposée pour les patients atteints de la COVID-19, comme ça a déjà été proposé pour traiter l'influenza puis d'autres maladies infectieuses. Alors, un peu comme pour les autres traitements, les preuves à l'heure actuelle sont plutôt décevantes, même dans une maladie comme l'influenza, même dans un contexte où on dispose de plus de données, il semble pas que ça fonctionne très bien, il semble pas que ça réduise la mortalité. Et donc, même si ça avait réduit la mortalité dans ces autres populations-là, on aurait été en droit de questionner si ça fonctionne réellement pour les patients atteints de la COVID-19, mais dans ce cas-là, les données suggèrent pas là, qu'il y ait un bénéfice lié à cette thérapie-là. C'est un traitement qui est néanmoins qui intéresse plusieurs personnes. Puis la bonne nouvelle, c'est que des études sont en train de se mettre en place qui vont peut-être nous apporter des réponses précises là, pour la COVID-19.
Pouvez-vous nous expliquer à quel point le plasma de convalescent est un grand consommateur de ressources et quels sont les coûts et les exigences pour y avoir accès?
C'est effectivement important là, de parler de la faisabilité d'un traitement, donc pas seulement des effets cliniques, mais de ce que ça implique de mettre en place un traitement, parce que ça, c'est le genre de considération dont il faut tenir compte quand on émet des lignes directrices. Dans le cas des placements de patients convalescents, ben il faut évidemment d'abord trouver des patients qui ont été infectés, qui ont guéri de cette infection-là, qui ont consenti à donner du sang. Après ça, il faut extraire, il faut séparer le plasma du sang total. Il faut mettre en banque ces produits sanguins-là avant de pouvoir les utiliser pour soigner des patients malades. Donc, vous comprenez que c'est considérablement plus compliqué que de donner un médicament. Et donc, il faut que les preuves suggérant que, bon, si jamais on a des preuves suggérant que c'est bénéfique de faire ça, il va falloir qu'elles soient très convaincantes avant qu'elles justifient la mise en place de ce traitement-là à grande échelle.
En termes d'antiviraux, vous avez examiné l'humifénovir, le favipiravir, l'hydroxychloroquine, la ribavirine, le lopinavir, ritonavir, l'interféron alpha et l'interféron bêta. Quelles sont vos conclusions concernant les médicaments antiviraux?
Un peu comme je le disais plus tôt, là, comme pour les autres traitements qu'on a évalués, malheureusement, malgré qu'on ait beaucoup entendu parler de certains de ces traitements-là, l'ensemble des preuves scientifiques ne nous permet pas de conclure avec certitude là, que ces interventions-là puissent être bénéfiques. On est légèrement plus certain du fait que ces interventions-là, comme l'ensemble des traitements en médecine, là, seront probablement associés à certains effets secondaires. Et donc, pour l'ensemble de ces raisons-là, notre recommandation était plutôt défavorable. Et on croit pas que ces traitements-là doivent être utilisés à l'heure actuelle sur la base des preuves existantes, là.
Dans votre guide de pratique, vous comparez vos recommandations à celles faites par d'autres organismes et sociétés, par exemple les recommandations de la Surviving Sepsis Campaign et les recommandations de sociétés de maladies infectieuses. En quoi vos recommandations diffèrent-elles des recommandations de ces autres organismes?
Peut-être que les lignes directrices qu'on vient de publier s'intéressent à des traitements qui n'ont pas été traités par les autres organisations. Donc, dans ce sens-là, on ajoute des lignes directrices qui n'existaient pas avant. Pour les quelques interventions qui se recoupent là, d'une organisation à l'autre, en général, les nôtres, nos lignes directrices sont assez semblables à celles des autres organismes, avec à quelques nuances près. À l'occasion, les organisations ont fait des recommandations voulant que le traitement soit permis uniquement dans le contexte d'études cliniques, ce qui ressemble assez aux recommandations faibles, défavorables qu'on a faites pour ces traitements-là, surtout considérant qu'à la fin de notre document, on explique de manière assez explicite là, que les recommandations faibles peuvent être interprétées par la communauté de recherche comme par les cliniciens comme étant un avis soulignant là, le besoin de recherche dans le futur. Donc, à quelques nuances près, là, quand on s'est intéressé au même traitement, les conclusions ont été les mêmes.
Que pensez-vous de nos connaissances sur le virus SARS-CoV-2 qui change si rapidement et sur l'énorme défi qui consiste à suivre les diverses recommandations publiées à travers le monde en ce qui concerne les soins et le traitement des patients atteints de la COVID-19? Et comment prévoyez-vous mettre à jour ce guide de pratique dans le futur?
Alors, c'est un réel défi parce que c'est une maladie nouvelle, donc par définition, il y avait peu de preuves scientifiques directes, je l'expliquais plus tôt. Et donc, au début d'une épidémie comme celle-là, les attentes de la population puis des cliniciens dépassent largement ce qu'on peut offrir comme réponse parce que la recherche n'a pas encore été menée. Bon, néanmoins, on croit qu'il est important d'émettre des lignes directrices rigoureuse, si ce n'est que pour établir le fait qu'il y a peu de données. Par ailleurs, on sait que là il y a un nombre assez invraisemblable d'études en cours et donc on sait que le travail de ceux qui font des lignes directrices va augmenter considérablement dans les semaines et dans les mois à venir. Dans ce contexte-là, l'équipe qu'on a constituée rapidement pour émettre ces lignes directrices-ci est en train de se bonifier. Donc, nos collaborations se complexifient, s'améliorent. On a déjà commencé, voyant venir le travail qui s'annonce, là, à établir des collaborations formelles avec l'Organisation mondiale de la santé, par exemple, avec différents journaux comme le JAMC, comme le British Medical Journal, avec d'autres groupes aussi là qui font depuis longtemps des lignes directrices et qui les disséminent par la voie de sites web, comme le site web Magic, là, dont le lien peut être trouvé sur le site du JMAC. Et donc, on se prépare un peu pour continuer de le travail puis de mettre à jour ces lignes directrices-là et pour qu'on prépare les prochaines directrices, par exemple, celles portant sur les traitements qu'on n'a pas pu décrire ou pour lesquels on n'a pas pu faire de recommandations cette fois-ci, comme le remdesivir, par exemple, qui est sur toutes les lèvres à l'heure actuelle. À l'époque, on a jugé que comme le traitement n'était pas disponible, on avait choisi de ne pas s'intéresser à ce traitement-là. Mais là, avec les données récentes, c'est notre première priorité en termes de mise à jour. Et donc, la prochaine ligne directrice portera sur le remdesivir.
Selon vous, qu'est-ce qui est le plus important pour les cliniciens et les patients actuellement?
Probablement que, de notre point de vue, ce qui nous préoccupe, c'est les barrières à l'application de ces lignes directrices-là, puis c'est tout le bruit environnant qui peut faire en sorte qui pourrait nuire à l'application de ces lignes directrices-là. J'ai en tête la désinformation ou la mésinformation là qui circule parfois dans des cercles politiques ou non scientifiques, mais parfois même à l'intérieur là, des communautés scientifiques et médicales. Une idée qui est assez prévalente, c'est celle selon laquelle il n'existe aucun traitement pour la COVID-19, puis que tant qu'à ne rien faire, vaut mieux essayer quelque chose parce que les risques sont probablement minimes. Or, pour les patients qui sont les moins malades, souvent c'est peut-être très approprié de ne rien faire, là, de la même façon qu'on ne fait rien pour traiter un rhume. Pour les patients qui sont plus gravement malades, moi je crois fermement là, qu'il est faux de dire qu'il n'existe pas de traitement. Il existe des traitements qu'on dit de support. Quand on devient très malade, on peut être supporté par respirateur artificiel au besoin. Quand on pense souffrir d'une surinfection bactérienne, on peut offrir des antibiotiques, on peut nourrir nos malades. Bref, on peut les soutenir assez longtemps pour que leur propre système immunitaire les débarrasse de l'infection. Et ça, c'est un traitement efficace avec lequel on a beaucoup d'expérience. Donc, l'alternative qui s'offre aux cliniciens, c'est pas de ne rien faire, c'est de faire un traitement connu, efficace, versus de se lancer dans des traitements qui sont fort possiblement inefficaces, possiblement dangereux et certainement coûteux. Et donc ça, c'est la véritable alternative, et puis c'est malheureusement peut-être l'information qui est pas suffisamment véhiculée là, dans la population.
Je pense que tu as parlé de ces concepts-là dans un article récent dans le JAMA.
Oui, ben donc évidemment mon intérêt à moi là, c'est beaucoup les soins intensifs et les traitements de support. Donc on a eu l'occasion, on m'a invité à parler de ces principes-là dans le JAMA suite à la publication là, des lignes directrices par la Surviving Sepsis Campaign tout récemment, effectivement.
François, merci pour cette intéressante discussion aujourd'hui.
Merci beaucoup, merci de m'avoir invité.
Je parlais au docteur François Lamontagne, interniste et intensiviste à Sherbrooke, professeur à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke et expert en recherche clinique. Pour lire le guide de pratique sur le traitement de la COVID-19, visitez le site du JAMC au www.cmaj.ca. Vous pouvez aussi y trouver une section spéciale sur la COVID-19. Je suis le docteur Luc Lantier et je vous remercie pour votre attention.